Cela faisait un petit bout de temps que Sophie avait compris ce qu'entendait Alberto avec ses heures. Minuit, c'était le commencement. Une heure, c'était 100 après Jésus-Christ. 6 heures, 600 après Jésus-Christ. Et 2 heures de l'après-midi, 1400 après Jésus-Christ. Alberto reprit. Le Moyen Âge. C'est ainsi qu'on appelle ce long laps de temps entre deux époques. Le terme fut créé à la Renaissance. On eut l'impression que le Moyen Âge n'avait été qu'une longue nuit de 1000 ans qui s'était abattue sur toute l'Europe entre l'Antiquité et la Renaissance. L'expression « moyenâgeux » continue de s'appliquer de manière péjorative à tout ce que l'on juge autoritaire et arriéré. Certains ont cependant considéré le Moyen Âge comme la fermentation de 1000 ans. C'est pendant le Moyen Âge que le système scolaire, par exemple, a pris forme. C'est au début du Moyen Âge que fleurirent les premières écoles monastiques. Puis, vers 1100, des écoles apparurent au sein des cathédrales et aux environs de 1200 furent fondées les premières universités. De nos jours encore, la matière étudiée détermine le choix de la faculté comme au temps du Moyen Âge. 1000 ans, ce n'est pas rien. Mais le christianisme mit du temps à atteindre les couches profondes de la population. Au cours du Moyen Âge, les différentes nations se constituèrent avec des villes et des citoyens, de la musique et de la poésie populaire. Qu'auraient été les contes et les chansons populaires sans le Moyen Âge? Et l'Europe, Sophie, serait-elle restée une province romaine? Ce fond linguistique, que nous retrouvons dans les noms mêmes de Norvège, Angleterre et Allemagne, nous le devons précisément à cette époque. La mer peut receler dans ses eaux profondes de gros poissons invisibles à l'œil nu. Snorre, l'auteur de l'Edda, était un homme du Moyen Âge. Olaf le Saint qui christianisa la Norvège aussi. Et Charlemagne, pour ne pas citer Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard ou Tristan et Iseut. Sans oublier une flopée de princes altiers et de rois majestueux, de proches chevaliers et de belles dames, de maîtres verriers anonymes et de bâtisseurs géniaux. Et je passe sous silence les moines, les croisés et les femmes intelligentes. Tu as oublié les prêtres ? Tout juste. Le christianisme vint en Norvège un peu avant 1100. Mais ce serait exagéré de prétendre que la Norvège fut christianisée après la défaite de Stiklestad. Un grand nombre de croyances païennes continuèrent à circuler sous la surface du christianisme et beaucoup d'éléments pré-chrétiens se mêlèrent aux représentations chrétiennes. Prenons l'exemple du Noël norvégien. D'anciennes coutumes norroises se sont alliées aux coutumes chrétiennes, comme dans la traditionnelle fête de mariage. On peut vérifier à ce propos la vieille règle qui veut que chaque partie du couple se mette à ressembler à l'autre. Cependant, le christianisme ne tarda pas à imposer sa vision du monde. C'est pourquoi nous disons que le Moyen Âge est sous le signe d'une culture chrétienne unifiée. Ce n'était donc pas si sombre et lugubre que ça. Certes, on assista dans les premiers siècles qui suivirent l'an 400 à une véritable décadence. L'époque romaine avait été une période faste pour la culture avec des métropoles qui avaient des égouts, des bains et des bibliothèques publiques, sans parler d'une architecture grandiose. Toute cette culture vola en éclats au début du Moyen Âge. Le commerce et les finances aussi. On en revint à l'économie familiale et au troc. Le monde économique fut marqué par ce que l'on a appelé le féodalisme. De grands seigneurs possédaient la terre que des vassaux devaient travailler pour gagner de quoi rester en vie. Il y eut aussi, au cours des premiers siècles, une violente baisse de la démographie. Rome, par exemple, comptait 1 million d'habitants sous l'Antiquité. Mais en l'an 600, la population était réduite à 40 000 habitants. Une miette, quoi. On imagine deux pelés et un tondu déambuler parmi les ruines des monuments grandioses datant de l'âge d'or de la ville. Pour trouver des matériaux de construction, ils n'avaient qu'à se servir. Cette pratique a naturellement fort contrarié les archéologues qui auraient aimé que les gens du Moyen Âge laissent les ruines comme elles étaient. C'est facile à dire après. La grandeur de Rome n'était déjà plus qu'un souvenir vers la fin du IIIe siècle. Mais l'évêque de Rome devint le chef de toute l'Église catholique et reçut le nom de pape, c'est-à-dire de père, et fut considéré comme le porte-parole de Jésus sur terre. Rome fut donc le siège de la papauté durant presque tout le Moyen Âge. Ils furent peu à oser s'élever contre Rome, jusqu'au jour où les rois et les empereurs des nouveaux royaumes devinrent assez puissants pour s'attaquer au pouvoir de l'Église. Sophie leva les yeux vers le moine qui en savait si long. « Tu as dit que l'Église fit fermer l'Académie de Platon à Athènes. Tous les philosophes grecs tombèrent alors dans l'oubli ?»« Oui, mais seulement en partie. On avait connaissance de quelques écrits de Platon ou d'Aristote ici et là. L'Empire romain se divisait en trois zones culturelles. À l'ouest, la culture chrétienne de langue latine, avec Rome pour capitale. À l'est, la culture chrétienne de langue grecque, avec Constantinople comme capitale, la ville prenant plus tard le nom grec de Byzance. C'est pourquoi nous parlons du Moyen Âge byzantin, en opposition au Moyen Âge catholique romain. Et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ayant aussi fait partie de l'Empire romain, on vit s'épanouir en ces régions une culture musulmane de langue arabe. À la mort de Mahomet, en 632, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord se rallièrent à l'islam, peu après rejoints par l'Espagne. L'islam eut ses lieux sacrés avec des villes comme La Mecque, Médine, Jérusalem et Bagdad. D'un point de vue purement historique, il est intéressant de noter que les Arabes conquirent également la vieille ville hellénistique d'Alexandrie. Aussi, une grande partie de la science grecque fut-elle annexée par les Arabes. Durant tout le Moyen Âge, les Arabes jouèrent un rôle prédominant dans les mathématiques, la chimie, l'astronomie et la médecine. Dans plusieurs domaines, la culture arabe l'emporta sur la culture chrétienne. Je voulais savoir ce qu'était devenue la philosophie grecque. Alors essaie de te représenter un large fleuve qui s'est, à un moment, divisé en trois, avant de retrouver sa forme initiale. Je me l'imagine très bien. Tu peux donc comprendre comment la culture gréco-latine a été en partie transmise à la culture romaine catholique à l'ouest, à la culture romaine orientale à l'est et à la culture arabe au sud. Pour simplifier, disons que le néoplatonisme fut transmis à l'ouest, tandis que Platon et Aristote le furent chez les Arabes au sud. Mais chaque bras du fleuve, divisé en trois, gardait des caractéristiques du fleuve tout entier. Et à la fin du Moyen Âge, les trois bras de mer se rejoignirent en Italie du Nord. L'influence arabe venait des Arabes d'Espagne, l'influence grecque de la Grèce et de Byzance. Ce fut l'avènement de la Renaissance. Renaissance, c'est-à-dire le retour aux sources de l'Antiquité. D'une certaine manière, la culture antique avait donc survécu à cette longue traversée du désert que fut le Moyen Âge. Je comprends mieux à présent. Mais n'anticipons pas. Nous allons d'abord parler un peu de la philosophie du Moyen Âge, mon enfant. Mais je ne vais plus te tenir de discours du haut de cette chaire. Attends, je descends. Sophie avait une irrépressible envie de dormir et avait du mal à garder les yeux ouverts. À la vue de l'étrange moine qui descendait de la chaire, elle se crut en plein rêve. Alberto marcha droit vers l'autel. Il leva d'abord les yeux en direction du vieux crucifix, puis il se tourna vers Sophie et à pas lents vint s'asseoir à côté d'elle sur le banc de l'église. Quelle étrange sensation d'être si près de lui. Sophie devina des yeux sombres sous la capuche. Ils étaient ceux d'un homme d'un certain âge aux cheveux foncés et à la barbe en pointe. « Qui es-tu ? » pensait-elle. « Pourquoi as-tu fait irruption dans ma vie ?»« Nous allons apprendre à mieux nous connaître, » dit-il comme s'il lisait dans ses pensées. La lumière de l'aube, filtrée par les vitraux, éclairait peu à peu toute l'église, tandis qu'Alberto poursuivait son récit sur la philosophie du Moyen Âge. Les philosophes de cette époque avaient tout simplement admis que le christianisme disait la vérité sans trop se poser de questions. Commença-t-il ? Tout le problème était de savoir si l'on pouvait se contenter de croire à la révélation chrétienne, ou bien si l'on pouvait appréhender les vérités chrétiennes par la raison. Quel était le rapport entre les philosophes grecs et ce qu'enseignait la Bible ? Y avait-il opposition entre la Bible et la raison ? Où pouvait-on concilier la foi et le savoir? Voilà le problème auquel s'est attachée presque toute la philosophie du Moyen Âge. Sophie fit un signe d'impatience de la tête. Elle avait déjà répondu à cette question sur la foi et le savoir dans son devoir de religion. Nous allons examiner le point de vue de deux grands philosophes du Moyen Âge. Et nous allons commencer par saint Augustin. Qui vécut de 354 à 430. La vie de cet homme résume à elle seule la transition de l'Antiquité au Moyen Âge. Saint Augustin naquit dans la petite ville de Tagaste, en Afrique du Nord. Mais à l'âge de 16 ans, il partit étudier à Carthage. Il voyagea plus tard à Rome et Milan et fut les dernières années de sa vie évêque dans la ville d'Hippone, située à quelques kilomètres à l'ouest de Carthage. Mais il ne fut pas chrétien toute son existence. Saint Augustin connut de nombreux courants religieux et philosophiques avant de se convertir au christianisme. Tu peux me donner des exemples ? Eh bien, il fut un temps manichéen. Les manichéens formaient une secte religieuse à mains égards caractéristiques de l'Antiquité tardive. Leur conception du salut était mi-religieuse, mi-philosophique. Le monde était, selon eux, divisé en deux, le bien et le mal, l'ombre et la lumière, l'esprit et la matière. Grâce à son esprit, l'homme pouvait s'élever au-dessus de la matière et trouver le salut pour son âme. Mais cette opposition bien tranchée entre le bien et le mal ne le satisfaisait pas. Le jeune saint Augustin était préoccupé par ce que nous avons coutume d'appeler le problème du mal, c'est-à-dire le problème de l'origine du mal. Il fut séduit à une certaine époque par les idées des stoïciens, pour qui la frontière entre le bien et le mal n'existe pas. Saint Augustin fut avant tout marqué par la philosophie de l'Antiquité tardive, à savoir le néoplatonisme. C'est là qu'il apprit que tout ce qui était au monde était de nature divine. Alors c'est comme ça qu'il est devenu évêque néoplatonicien ? Oui, c'est une façon de dire les choses. Il s'est d'abord converti, mais le christianisme de saint Augustin est très influencé par la pensée platonicienne. Aussi, ne peut-on pas vraiment parler de réelle rupture avec la philosophie grecque dès que l'on aborde le Moyen Âge chrétien ? Car une grande partie de la philosophie grecque continua à vivre pendant cette période grâce à des pères de l'Église comme saint Augustin. Tu veux dire par là que saint Augustin était à 50% chrétien et 50% néoplatonicien ? Lui se considérait bien entendu comme chrétien à 100%. Il ne voyait en effet aucune contradiction entre le christianisme et la philosophie de Platon. Il trouvait une telle parenté entre la philosophie de Platon et l'enseignement du Christ qu'il en était même à se demander si Platon n'avait pas eu connaissance de certains textes de l'Ancien Testament. Cela est naturellement fort peu probable. Mieux vaudrait dire que c'est saint Augustin qui a christianisé Platon. Il n'a donc pas tourné le dos à tout ce qui avait trait à la philosophie en se convertissant ? Non. Mais il a néanmoins clairement indiqué qu'il y a des limites dans le domaine religieux que la raison ne peut franchir. Il ne faut pas oublier que le christianisme est un mystère divin que seule la foi permet d'approcher. Par la foi, Dieu éclaire notre âme et nous permet d'accéder à une connaissance quasi surnaturelle de Dieu. Saint Augustin avait profondément ressenti les limites de la philosophie, et ce n'est qu'en devenant chrétien qu'il trouva enfin la paix de l'âme. Notre cœur est inquiet tant qu'il ne trouve pas le repos en toi, écrit-il. J'ai du mal à saisir le lien entre la théorie de Platon et le christianisme, rétorqua Sophie à ce moment de la conversation. Que deviennent les idées éternelles dans tout ça? saint Augustin fait sienne l'idée présente dans la Bible que Dieu créa le monde à partir du néant. Les Grecs étaient davantage enclins à penser que le monde avait existé de toute éternité. Mais, selon lui, les idées existaient dans les pensées de Dieu avant que celui-ci ne crée le monde. Il prêtait en quelque sorte à Dieu les idées platoniciennes et sauvait de cette manière la théorie des idées éternelles. Pas bête. C'est une preuve des concessions que saint Augustin et de nombreux pères de l'Église étaient prêts à faire pour concilier la pensée juive et la pensée chrétienne. Ils étaient en fait les représentants des deux cultures. Dans sa conception du mal aussi, saint Augustin se réfère au néoplatonisme. Le mal était, comme l'avait dit Plotin avant lui, une absence de Dieu. Il n'existe pas de manière indépendante, il n'a aucune existence véritable, car la création de Dieu est forcément bonne. Le mal provient, d'après saint Augustin, de la désobéissance des hommes. Ou, pour reprendre ces termes, la bonne volonté est l'œuvre de Dieu. La mauvaise volonté est de s'éloigner de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il croyait aussi à l'immortalité de l'âme? Oui et non. Saint Augustin soutient qu'entre Dieu et le monde, il y a un abîme insondable. Il s'appuie pour ce faire sur la Bible et rejette ainsi la théorie de Plotin que tout est un. Cela dit, il souligne que l'homme est un être spirituel. Il a un corps matériel, ce en quoi il appartient au monde physique, soumis au mythe et à la rouille. Mais il a aussi une âme qui, elle, peut reconnaître Dieu. Que devient l'âme quand nous mourons? Selon saint Augustin, toute l'humanité fut décimée après la chute. Dieu décida malgré tout de sauver quelques hommes de la perdition. Il aurait tout aussi bien pu sauver toute l'humanité tant qu'il y était, objecta Sophie. Mais sur ce point, saint Augustin retire tout droit à l'homme de critiquer Dieu. Il se réfère à ce qu'écrivit saint Paul dans son épître aux Romains. Ô homme, vraiment, qui es-tu pour disputer avec Dieu? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire? Dieu s'amuse donc là-haut dans le ciel à jouer avec les hommes? Dès que quelque chose le déçoit, il le jette à la poubelle? Ce que saint Augustin essaie de nous faire comprendre, c'est qu'aucun homme ne mérite le salut de Dieu. Et pourtant, Dieu a choisi de sauver quelques hommes de la perdition. Lui sait parfaitement qui sera sauvé et qui sera perdu. Tout est décidé à l'avance. Nous sommes comme de l'argile dans la main de Dieu. Nous dépendons entièrement de sa grâce. Autrement dit, on en revient à la vieille croyance en un destin. Il y a un peu de cela. Mais saint Augustin n'ôte pas à l'homme la responsabilité de sa propre vie. Son conseil était que nous devons vivre de façon à prendre conscience par le cours de notre vie que nous faisons partie des élus. Il ne nie pas que nous ayons notre libre arbitre, mais Dieu a établi à l'avance comment nous allons vivre. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste? Interrogea Sophie. Socrate disait que tous les hommes avaient les mêmes chances entre eux parce qu'ils possédaient la même raison. Mais saint Augustin scinde l'humanité en deux groupes. L'un sera sauvé et l'autre sera perdu. Oui, la théologie de saint Augustin nous a quelque peu éloignés de l'humanisme grec. Mais ce n'est pas saint Augustin qui a divisé l'humanité en deux groupes. Il ne fait que s'appuyer sur l'idée présente dans la Bible du salut et de la perdition. Et il approfondit cette idée dans un grand ouvrage intitulé « De la cité de Dieu ». Raconte. L'expression « la cité de Dieu » ou encore « le royaume de Dieu » vient de la Bible et du message de Jésus. L'histoire, selon saint Augustin, se résumait au combat entre la cité de Dieu et la cité terrestre. Ces deux états ne sont pas des états politiques bien distincts entre eux. Ils luttent au sein de chaque être humain. Néanmoins, la cité de Dieu est plus ou moins présente dans l'Église, et la cité terrestre est présente dans les formations politiques, comme l'Empire romain, par exemple, qui s'effondra justement à l'époque de saint Augustin. Cette conception se vérifia de plus en plus au spectacle de la lutte incessante entre l'État et l'Église pour le pouvoir au cours de tout le Moyen Âge. Hors l'Église, point de salut, répétait-on. La cité de Dieu de saint Augustin fut finalement assimilée à l'Église en tant que structure organisée. Il faudra attendre l'an 1500 pour voir apparaître les premières protestations contre le passage obligé par l'Église pour obtenir le salut de Dieu. Ce n'était pas trop tôt. On peut remarquer que saint Augustin est le premier philosophe que nous rencontrons à inclure l'histoire dans sa philosophie. Le combat entre le bien et le mal n'était pas en soi une nouveauté, mais ce qui était nouveau, c'était cette inscription dans l'histoire. Aucune trace de platonisme ici chez saint Augustin. Il applique la vision linéaire de l'histoire comme on la trouve dans l'Ancien Testament. L'idée est que Dieu a besoin du déroulement de toute l'histoire pour réaliser sa cité de Dieu. L'histoire est nécessaire pour éduquer l'homme et anéantir le mal. Pour reprendre les termes de saint Augustin, la Providence conduit l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin de l'histoire, comme s'il ne s'agissait que de l'histoire d'un seul individu qui passerait petit à petit de l'enfance à la vieillesse. Sophie regarda sa montre. « Il est 8 heures, » dit-elle. Il va falloir que je m'en aille bientôt. Oui, mais pas avant que je ne t'ai parlé du deuxième grand philosophe du Moyen Âge. Et si on allait s'asseoir dehors ? Alberto se leva du banc. Il joignit ses mains et commença à se diriger vers la sortie. Il paraissait absorbé dans quelques prières ou considérations d'ordre spirituel. Sophie le suivit. Elle n'avait pas vraiment le choix.